et je te remercie de ce que ton esprit peut tellement nous rendre participants de la vie de Christ, que nous aussi nous soyons irrépréhensibles en sainteté. Grâce te soit rendue de ce que c'est toi-même, ô Seigneur, qui nous fait croître et abonder dans l'amour, l'amour abondant et la sainteté irrépréhensible nous viennent de toi. Ô Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je viens à toi pour te demander et pour prendre comme mon bien ce que tu peux et veux faire pour moi. Ô toi en qui réside la plénitude de l'amour de Dieu, et en qui j'habite, toi, le Seigneur, mon Seigneur, fais-moi abonder dans l'amour. Par l'enseignement de ton Saint-Esprit, conduis-moi sur les traces de ton amour, dont le renoncement m'a valu le salut, afin que moi aussi je puisse comme toi être consumé, en devenant bénédiction pour les autres. Et ainsi, Seigneur, établis mon cœur puissamment dans une sainteté irrépréhensible, que le moi périsse en ta présence. Que ta sainteté, qui se donne afin de rendre saint le pécheur, prenne entièrement possession de moi, jusqu'à ce que mon cœur et ma vie soient parfaitement sanctifiés, et que mon esprit entier, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, pour le jour de ta venue. Amen. Demandons très sérieusement à Dieu, que notre intérêt dans l'étude de la sainteté ne soit, point une affaire d'intelligence ou d'émotion, mais une affaire de volonté et de vie que tous les hommes puissent voir dans notre marche et notre conversation journalière. Abondant dans la charité, irrépréhensible en sainteté nous gagnera la faveur de Dieu et des hommes. De Dieu est amour, la création c'est l'abondance débordante de cet amour. La rédemption c'est le sacrifice et le triomphe de l'amour, la sainteté c'est le feu de l'amour, la beauté de la vie de Jésus, c'est l'amour. Tout le divin dont nous jouissons, nous le devons à l'amour. Si nous n'aimons pas, notre sainteté n'est ni de Dieu, ni de Christ. Saint en Christ, 26e jour, la sainteté et la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Voici je viens pour faire ta volonté, cette volonté par l'exécution de laquelle nous sommes sanctifiés une fois, pour toutes par l'oblation du corps de Christ, Hébreux 10, 9,10. Dans la volonté de Dieu nous avons l'union de sa sagesse et de sa puissance. La sagesse de Dieu déclare et décide ce qui doit être, sa puissance en est sur l'exécution. L'expression de cette volonté n'est qu'un des côtés, son complément en est l'exécution, qui est alors la vivante énergie dans laquelle tout ce qui est bon, a sa source et son existence. Aussi longtemps que nous ne regardons à la volonté de Dieu, que comme on regarde à une loi, cette volonté devient pour nous un fardeau, parce que nous n'avons pas la force de l'accomplir, elle est trop élevée pour nous. Quand la foi regarde à la puissance qui agit dans la volonté de Dieu et qui l'exécute, elle a le courage de l'accepter et de l'accomplir parce qu'elle sait que c'est Dieu lui-même qui l'accomplit. L'abandon à la volonté divine, en tant que sagesse divine, devient ainsi le chemin qui conduit à l'expérience de cette volonté comme puissance. Il agit selon sa volonté, devient alors le langage, non pas seulement d'une soumission forcée, mais d'une joyeuse attente. C'est ici la volonté de Dieu, savoir, votre sanctification. Dans l'acception ordinaire de ces mots, il signifie simplement que, parmi beaucoup d'autres choses que Dieu a voulu, la sanctification en est une, c'est une chose qui est selon sa volonté. Cette pensée contient un enseignement d'une grande valeur. Dieu a voulu très clairement et très positivement votre sanctification, à sa source et sa certitude dans le fait qu'elle est la volonté de Dieu à votre égard. Nous sommes choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, et choisis pour être saints, élus en Christ pour être saints et parfaits devant lui, le plan de Dieu, son dessein de toute éternité, et sa volonté aujourd'hui à notre égard, c'est notre sanctification. Nous n'avons qu'à nous rappeler ce que nous avons dit, c'est que la volonté de Dieu est un divin pouvoir, qui opère ce que sa sagesse a arrêté, pour voir la force que cette vérité donnera à notre foi, que nous serons saints. Dieu le veut et il le fera pour tous et en tous ceux qui ne résistent pas à cette volonté, mais qui se livrent à sa puissance. Cherchez votre sanctification, non seulement dans la volonté de Dieu, comme déclaration de ce qu'il désire que vous soyez, mais comme révélation de ce que lui-même veut produire en vous. Il y a cependant ici une autre très précieuse pensée qui nous est suggérée. Si notre sanctification est dans la volonté de Dieu, si elle en est la pensée centrale et le contenu, toutes les parties de cette volonté doivent porter là-dessus, et le plus sûr moyen d'entrer dans la voie de la sanctification sera une cordiale acceptation de la volonté de Dieu en toute chose. Être un avec la volonté de Dieu, c'est être saint. que celui qui veut être saint prenne sa position là et demeure ferme dans tout ce que Dieu veut. Colossiens 4, 12. C'est là qu'il trouvera Dieu lui-même et qu'il sera fait participant de sa sainteté, parce que sa volonté exécute ses desseins avec puissance en tout homme qui s'y livre sans réserve. Tout dans la vie de la sainteté dépend de ceci, c'est que la relation dans laquelle nous sommes avec la volonté de Dieu soit ce qu'elle doit être. Il y a beaucoup de chrétiens à qui il semble impossible d'accepter toute la volonté de Dieu, d'être parfaitement d'accord avec cette volonté. Ils regardent la volonté de Dieu telle qu'elle leur apparaît dans ses 1000 commandements et ses innombrables dispositions providentielles. Ils ont trouvé parfois si difficile d'obéir à un seul commandement ou d'accepter volontiers quelques légères contrariétés. Ils s'imaginent qu'ils devraient être 1000 fois plus saints et plus avancés dans la grâce avant de se risquer à dire qu'ils acceptent toute la volonté de Dieu, soit pour la faire, soit pour s'y soumettre. Ils ne peuvent comprendre que toutes leurs difficultés viennent de ce qu'ils ne se sont pas placés à un point de vue juste. Ils s'arrêtent à ce qui, dans la volonté de Dieu, est en désaccord avec leur volonté naturelle, et ils sentent que cette volonté ne fera jamais ses délices de toute la volonté de Dieu. Ils oublient que le nouvel homme a une volonté renouvelée. Cette volonté nouvelle fait ses délices de la volonté de Dieu parce qu'elle est née elle-même de cette volonté. Cette volonté renouvelée voit la beauté et la gloire de la volonté de Dieu et est en harmonie avec elle. S'ils sont, en effet, des enfants de Dieu, la première impulsion de l'esprit d'un enfant est certainement de faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Et ils n'ont qu'à céder cordialement et entièrement à cet esprit filial, ils ne craindront plus alors d'accepter comme leur la volonté de Dieu. L'erreur qu'ils commettent est très sérieuse. Au lieu de vivre par la foi, ils jugent par ce qu'ils sentent. Or, le sentiment est un domaine dans lequel agit par la vieille nature. Cette vieille nature leur dit que la volonté de Dieu est souvent un fardeau, trop lourd à porter et qu'ils n'auront jamais la force de le faire. La foi parle différemment. Elle nous rappelle que Dieu est amour et que sa volonté n'est pas autre chose que l'amour révélé. Elle nous demande si nous ignorons qu'il n'y a rien de plus parfait et de plus beau dans les cieux et sur la terre que la volonté de Dieu. Elle nous montre que lors de notre conversion nous avons déjà fait profession d'accepter Dieu comme Père et comme Seigneur. Elle nous assure surtout que, si nous voulons seulement et d'une manière définitive nous livrer avec confiance à cette volonté qui est amour, elle remplira comme amour divin nos cœurs et nous y fera trouver nos délices, devenant ainsi en nous la puissance qui nous rendra capables de faire et d'accepter cette volonté. La foi nous révèle que la volonté de Dieu est la puissance de son amour exécutant, avec une divine beauté son plan dans quiconque s'y livre entièrement. Et maintenant, que choisirons-nous? Et quelle est la position que nous prendrons? Essaierons-nous d'accepter Christ comme sauveur sans accepter sa volonté? Ferons-nous profession d'être les enfants du Père, tout en dépensant notre vie à débattre la part de la volonté de Dieu que nous sommes décidés à accepter? Nous contenterons-nous d'aller de l'avant, jour après jour, avec le sentiment douloureux que notre volonté n'est pas en harmonie avec celle de Dieu? Ou ne renoncerons-nous pas plutôt immédiatement et une fois, pour toute à notre volonté coupable, pour accepter la sienne, qu'il a déjà commencé à graver dans nos cœurs? Ceci est une chose possible. Nous pouvons la faire. Dans une transaction simple et déterminée avec Dieu, nous pouvons lui dire que nous acceptons comme nôtre sa sainte volonté. La foi c'est que Dieu ne laisserait point inaperçu un pareil abandon de notre part, mais qu'il l'acceptera. Avec cette confiance qu'il nous enrôle dans sa volonté, qu'il nous y fait monter, comme un voiturier fait monter sur son char le pauvre piéton fatigué et qu'il se charge de nous révéler cette volonté, avec l'amour et la force pour la faire, avec cette foi-là, entrons dans les vues de Dieu, dans sa volonté, et commençons une vie nouvelle, nous établissant et demeurant dans le centre, même de cette très sainte volonté. Une pareille acceptation de la volonté de Dieu prépara le croyant, par le Saint-Esprit, à reconnaître et à connaître cette volonté, sous quelque forme qu'elle se présente. La grande différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel est que ce dernier reconnaît Dieu, sous quelque forme qu'il se manifeste, que ce soit la plus humble, la plus pauvre et la plus humaine. Lorsque Dieu vient dans des épreuves qui ne peuvent être attribuées qu'à sa main seule, il dit « Que ta volonté soit faite ». Il sait qu'il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu soit dans une situation quelconque sans la volonté de son Père Céleste, même lorsque cette volonté a été de le laisser pour un temps livré à son caractère volontaire ou de le laisser supporter les conséquences de ses propres péchés ou de ceux des autres. Il voit cela et, en acceptant ces circonstances, comme la volonté de Dieu, volonté qui doit mettre à l'épreuve sa foi et son obéissance, il est maintenant dans la vraie position pour savoir et pour faire ce qui est juste. Voyant et honorant de cette manière, en toute chose la volonté de Dieu, il apprend à demeurer toujours dans cette volonté. Il en agit aussi de cette manière, en faisant la volonté de Dieu. Comme son discernement spirituel se développe et grandit au point qu'il peut, en présence de tout ce qui lui arrive, dire « Toutes choses viennent de Dieu », de même aussi il croit en sagesse et en intelligence spirituelle pour connaître la volonté de Dieu et pour savoir comment il doit la faire. Dans les indications de sa conscience et de la providence, dans l'enseignement de la parole et de l'esprit, il apprend à voir comment la volonté de Dieu se rapporte à toutes les parties et à tous les devoirs de la vie, et cela devient sa joie de vivre en toutes choses, en faisant de bon cœur la volonté de Dieu, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Combattant toujours par ses prières, afin de demeurer ferme dans tout ce que Dieu veut, il voit combien heureusement le Père a accepté l'abandon qu'il lui a fait de lui-même et comment il le pourvoit de toute la lumière et de toute la force qui lui est nécessaire pour que la volonté de Dieu soit faite par lui sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Qu'il me soit permis maintenant de demander de tout lecteur qu'il dise au Dieu Saint si oui ou non il s'est vraiment donné à lui pour être sanctifié, si oui ou non il a accepté la volonté bonne et parfaite de Dieu et s'il vit selon cette volonté. La question n'est pas de savoir si, lorsque vient l'affliction, il l'accepte comme inévitable et se soumet à une volonté à laquelle il lui est impossible de résister, mais s'il a choisi la volonté de Dieu comme son bien suprême et s'il a pris comme sien le principe qui a fait agir Christ pendant toute sa vie, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Celui-là la sainteté de Christ dans laquelle il s'est sanctifié pour nous en faisant la volonté de Dieu, volonté par laquelle nous avons été sanctifiés. C'est cette volonté de Dieu qui est notre sanctification. Frère, es-tu bien sérieux dans ton désir d'être saint, entièrement possédé par ton Dieu? Voici le chemin. Je te prie de ne pas t'en effrayer ni de te tenir à l'écart. Tu as pris Dieu pour ton Dieu, as-tu vraiment pris sa volonté pour être ta volonté? Oh! Pense au privilège et au bonheur d'être parfaitement d'accord avec la volonté de Dieu. Et ne crains pas de t'y livrer sans réserve. La volonté de Dieu est dans toutes ses parties et dans toute sa puissance divine ta sanctification. Soyez saint, car je suis saint. Ô Père Saint, je viens à toi pour te dire que je vois que ta volonté est que je sois saint, et je ne veux chercher ma sanctification nulle, par ailleurs que dans ta volonté. Accorde-moi miséricordieusement que par ton Saint-Esprit qui habite en moi, la gloire de cette volonté et le bonheur de m'y tenir, de vivre dans cette volonté, me soit pleinement révélé. Enseigne-moi à la connaître comme une volonté d'amour qui se propose sans cesse ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton enfant. Apprends-moi à la connaître comme la volonté de la Toute-Puissance capable d'accomplir en moi son conseil. Apprends-moi à la connaître en Christ, parfaitement accompli en ma faveur. Apprends-moi à la connaître comme l'œuvre que l'Esprit veut et qu'il opère en tout croyant qui se livre à lui. Ô mon Père, je reconnais ton droit à ce que ta volonté seule soit faite, et me voici pour que tu fasses de moi à cet égard tout ce qu'il te plaît. De tout mon cœur, ô mon Dieu, j'entre dans tes voies afin d'être un avec toi pour jamais. Ton Saint-Esprit peut entretenir cette union sans interruption. Je me confie en toi, mon Père, d'heure en heure, pour que tu fasses briller dans mon cœur, par cet esprit la lumière de ta volonté. Que ce soit là la sainteté dans laquelle je vive, et que je m'oublie et renonce à moi-même pour te plaire et t'honorer, ô mon Dieu Sauveur. Amen. En fait, votre étude, soit dans la méditation, soit dans le culte que vous rendez à Dieu, soit dans la prière, de vous pénétrer pleinement de la majesté, de la perfection et de la gloire de la volonté de Dieu, comme aussi du privilège et de la possibilité de vivre dans cette volonté. De étudier là aussi comme l'expression d'un amour paternel et infini, chacune de ces manifestations étant pleine de miséricorde. Toute dispensation providentielle et volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, l'humble adorateur y voit Dieu. Tout précepte et volonté de Dieu, sachez dans une obéissance filiale y voir Dieu. Toute promesse et volonté de Dieu, voyez-y, là encore, Dieu avec une entière confiance. Une vie passée dans la volonté de Dieu est repos, force et bonheur. Et n'oubliez pas surtout de croire à la toute-puissance de cette volonté. Il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. 3. Cette volonté est la bienveillance et la bienfaisance infinie révélée dans le sacrifice que Jésus a fait de lui-même. Vivez pour les autres, et vous deviendrez un instrument dont se servira la volonté divine. Monde 18, 14 Jean 6, 39,40. Livrez-vous vous-même à cette volonté rédemptrice de Dieu, pour qu'elle prenne pleine possession de vous, et qu'elle accomplisse par vous son plan de salut. 4. Christ est la personnification même de la volonté de Dieu. Il est la volonté de Dieu accomplie. Demeurez en lui, en demeurant dans la volonté de Dieu, et en la faisant toujours de tout votre cœur. Un chrétien est, comme Christ, un homme qui s'est livré à la volonté de Dieu. Saint en Christ, 27e jour, la sainteté et le service. Si donc un homme se conserve pur de ces choses, il sera un vase servant à un usage noble, sanctifié, fort utile au maître de la maison, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 21. Une sainte sacrificateur pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu, par Jésus-Christ. Une nation sainte au peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous publiez les vertus de celui qui vous a appelé à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 21. À travers toute l'Écriture, nous avons vu que quoi que ce soit que Dieu sanctifie, il le sanctifie afin de l'employer au service de sa sainteté. Sa sainteté est une énergie infinie, qui ne trouve son repos qu'en rendant saint. À la révélation de ce qu'il est, moi l'Éternel, je suis saint. Dieu ajoute continuellement la déclaration de ce qu'il fait, je suis l'Éternel qui sanctifie. La sainteté est un feu consumant qui s'étend, qui cherche à consumer ce qui est souillé, et à communiquer sa propre félicité à tout ce qui veut la recevoir. Sainteté et égoïsme, sainteté et inactivité, sainteté et paresse, sainteté et impuissance sont absolument inconciliables. Tout ce que nous lisons être chose sainte était admis dans le service de la sainteté de Dieu. Jetons un regard en arrière sur tout ce qui, dans l'Écriture, nous a été révélé comme saint. Le 7e jour fut sanctifié, afin que, par le moyen de ce jour, Dieu puisse sanctifier son peuple. Le tabernacle était saint, pour servir de demeure au Dieu saint, comme le centre duquel la sainteté de Dieu puisse manifester au peuple. L'autel était très saint, afin qu'il puisse sanctifier les dons qui y étaient déposés. Les prêtres avec leurs vêtements, la maison avec son ameublement et ses vases saints, les sacrifices et le sang, tout ce qui portait la qualification de saint, avait un usage et un but, en vue de la sainteté. Dieu avait dit d'Israël, qu'il l'avait racheté de la servitude d'Égypte, afin qu'il fût pour lui une nation sainte, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Les saints anges, les saints prophètes et les saints apôtres, les saintes écritures, tout porte une qualification d'être et d'objet sanctifié pour le service de Dieu. Notre Seigneur parle de lui-même comme du Fils que le Père a sanctifié et il ajoute aussitôt dans quel but le service du Père est de se racheter, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Et maintenant que Dieu, en Christ, le Saint, et par le Saint-Esprit, accomplissons des saints, et se forme un peuple de saints, saints, sanctifiés en Christ, est-il possible d'imaginer que maintenant, dis-je, la sainteté et le service puissent être séparés? Impossible. Nous nous rendons bien compte d'abord, ici combien ils sont indispensables l'un à l'autre. Essayons d'en saisir leur relation mutuelle. Nous n'avons été sanctifiés qu'en vue d'un service. Nous ne pouvons servir que dans la mesure où nous sommes saints. La sainteté est essentielle à un service effectif. Dans l'Ancien Testament, nous voyons des degrés de sainteté, non seulement dans les lieux saints, mais aussi dans les personnes saintes. Dans la nation, les lévites, les prêtres, puis le souverain sacrificateur, il y a des degrés divers de sainteté, et dans chaque stage qui se succède, le cercle se rétrécit et le service est plus direct, plus entier, tellement que la sainteté requise est plus élevée et plus distincte. Il en est de même dans la dispensation plus spirituelle où nous sommes maintenant, plus il y a de vraie sainteté, plus grande aussi est l'aptitude pour le service, plus il y a de vraie sainteté, plus la place que Dieu occupe est grande, et plus, par conséquent, est vraie et profonde l'entrée qu'il a eue dans l'âme. La prise qu'il a sur l'âme, pour l'employer à son service est dès lors plus complète. Mon frère, écoute ce message, si un homme se conserve pur, il sera un vase noble, sanctifié, fort utile au maître de la maison, propre à toute bonne œuvre. Impossible d'exposer plus clairement et plus noblement la loi du service. Un vase d'honneur, un vase que le roi sera heureux d'honorer doit être un vase purifié de toute souillure de la chair et de l'esprit. Alors seulement, il peut être un vase sanctifié, possédé par le Saint-Esprit et rempli de l'Esprit de Dieu.